autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation. On vous emmène au cinéma aujourd'hui pour une séance spéciale sur grands et petits écrans. Autour de la question pourquoi les maths aussi font leur cinéma, des figures de l'ombre à Imitation Game, en passant par Cube, projection privée de films et de séries où les maths ont le premier rôle. Sélectionné par nos invités, le professeur de maths et youtubeur Jérôme Contenson, alias El Gigi, ou plutôt connu des intimes sous le nom d'El Gigi, qui vient de publier « Les maths font leur cinéma » aux éditions Duno, ouvrage où nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Nous sommes également en ligne avec le mathématicien Randall Douk, professeur à Télécom Paris et à Polytechnique, mais aussi acteur au cinéma et au théâtre. Regard croisé sur l'image des maths au cinéma, en commençant précisément par un arrêt sur l'image de Matt Damon en mathématicien dans « Will Hunting ». Bienvenue pour une séance inédite de rattrapage mathématique et cinématographique.
Un théorème difficile, ça peut être comme une symphonie. C'est très érotique.
Waouh!
Waouh, nous voilà dans l'inconscient d'un génie, dans l'inconscient de Will Hunting, interprété par Matt Damon, décortiqué par vous, Jérôme Cotosso. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct en studio avec nous. Vous êtes professeur agrégé de mathématiques au lycée de Montaigu en Vendée. Merci d'avoir pris le train pour nous rejoindre en direct. Mais ce n'est pas votre seule casquette. Vous êtes aussi blogueur et vidéaste sur votre chaîne YouTube El Gigi, que c'est d'ailleurs là que nous avons emprunté cet extrait et de nombreux autres à suivre, que vous décortiquez mathématiquement, j'ai envie de dire, dans votre ouvrage « Les maths font leur cinéma » qui vient de paraître aux éditions Duno. Ouvrage dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous offrir, que vous soyez matheux, cinéphile ou juste curieux de tout, et notamment de maths au cinéma. C'est cette habitude, vous dites Jérôme Contenson dans la préface, cette manie de vérifier les équations en arrière-plan de certaines scènes de films, qui vous a donné l'idée de cette écriture, de ce livre, de cette composition cinématographique, Jérôme, El Gigi pour les intimes.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que alors, je ne suis pas un grand cinéphile, je regarde du cinéma comme n'importe qui en fait. Et parfois, on tombe sur des films dans lesquels ça parle de mathématiques. Forcément, vu que c'est mon cursus, ça m'intéresse. Et parfois, les réalisateurs ont l'audace de mettre des formules sur les tableaux. Et il m'arrive, c'est vrai, de mettre pause pendant que je regarde pour vérifier si les équations ont du sens ou pas, si ça donne des informations cachées sur ce que raconte le film en fait. Est-ce qu'il y a de la cohérence entre les équations qu'on voit, ce que les personnages sont en train de raconter à ce moment-là?
C'est à la fois la cohérence, que les équations soient justes, hein, que ce soit vraiment fourni derrière, mais peut-être aussi que ça donne des indices à suivre pour le film ou la série ou le suspense, que ça donne des éléments supplémentaires d'information.
Voilà. Bon, c'est assez rare quand même que ça arrive. Mais en général, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui est présenté par exemple comme un algébriste, et derrière on voit les équations qui correspondent à des équations de physique. Voilà, souvent c'est plutôt dans ce sens-là que
des petites erreurs.
Voilà, c'est souvent des erreurs dans les films. Et du coup, à partant de cette idée-là, je me suis dit que ça serait pas mal d'essayer de regarder les différents films qui existent, mathématiques, enfin, c'est-à-dire les films dans lesquels les mathématiques ont un rôle prépondérant, et s'intéresser justement dans ces films-là, est-ce que les équations qu'on voit sur les tableaux, est-ce que les dialogues des personnages déjà sont cohérents, sont corrects, et si c'est le cas, essayer de creuser un petit peu.
Oui, vous creusez un petit peu. D'ailleurs, vous catégorisez. Hein. Il y a des films où il y a un peu de mathématiques. En général, c'est pas tout à fait vous. Il y a des films carrément mathématiques. On va y revenir. Hein. Mais avant de s'arrêter sur l'image des maths et des mathématiciens et mathématiciennes aussi au cinéma, à travers des nombreux extraits de films et de séries que vous donnez à voir et qu'on peut retrouver dans cet ouvrage, puis également dans votre blog Chou Romanesco et Vache Kiri, et sur votre chaîne YouTube dans la catégorie Chou Rom Ciné Club. On voit que vous avez quand même de l'humour. l'amour, on a aussi eu envie d'inverser, si j'ose dire, notre regard avec vous, Randall Duke. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci, Randall, d'être en direct, en ligne, hein, avec nous depuis chez vous. Alors, vous, vous êtes mathématicien, chercheur et professeur à Télécom Paris Sud et à l'École Polytechnique. Et puis, vous êtes aussi acteur et auteur, comédien remarqué au cinéma, entre autres dans Barrage contre le Pacifique. Vous aussi, donc vous avez ces deux casquettes-là et vous vous intéressez, vous vous amusez aussi, on va y venir, des liens entre cinéma et mathématiques et plus généralement, est-ce qu'on peut le dire comme ça, entre art de la scène et science ou art de la scène et mathématiques ?
Oui, il y a des liens qui sont vraiment très clairs. En tout cas, dans le métier d'enseignant-chercheur, il y a toute la partie enseignement où on est un petit peu en représentation, où ça a forcément des liens avec le métier de l'acteur. Et puis dans le métier de la recherche, c'est vrai que c'est une recherche scientifique, donc on manipule pas les mêmes objets que ce qu'on manipule dans la création artistique. Mais c'est vrai qu'on est à la recherche de quelque chose. On a des intuitions, on part de choses qui existent, mais on a aussi des intuitions pour essayer de construire notre propre chemin. Et c'est vrai que du coup, la création scientifique et la création artistique sont des choses qui sont extrêmement liées. Alors par contre, contrairement à Jérôme, même si je suis extrêmement obsédé par les mathématiques, alors quand je regarde un film, au contraire, dès que je vois des équations, j'essaye de ne pas regarder l'arrière-plan, parce que ça risque de me sortir un petit peu de l'histoire. Donc c'est vrai que voilà, je sais à quel point, en fait, je comprends tout à fait que Jérôme puisse interrompre effectivement un film pour voir si vraiment ça a un sens ou pas. Mm-hmm. Et justement, me connaissant, je préfère occulter cet aspect-là, en fait, quand je regarde le film.
C'est ça, avoir soit votre casquette de mathématicien, soit votre casquette d'acteur, d'auteur, de comédien, c'est ça, hein ?
Oui, tout à fait.
Autour de la question comment les maths font leur cinéma, on va peut-être commencer par un des films les plus emblématiques de ces liaisons, pas dangereuses du tout, hein, entre mathématiques et cinéma. C'est Imitation Game, qui met donc en scène Alan Turing, le génial mathématicien, informaticien, créateur de la machine Enigma, ancêtre de nos ordinateurs, Alan Turing au destin tragique. Extrait de la bande-annonce.
C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toutes leurs communications stratégiques.
Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable.
Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs.
On manque d'effectifs.
Eh bien, nous allons recruter du monde.
Vous disposez de 6 minutes pour résoudre le problème.
C'est possible au moins ?
Non, moi il m'en faut 8.
5 minutes et 34 secondes.
Vous avez dit moins de 6.
Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant.
Vous pourriez nous aider, mais vous ne le faites pas.
Je ne suis qu'un mathématicien.
Parfois, ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien, qui font les choses que personne n'aurait imaginées.
Comment vaincre la marine allemande avec un algorithme ? C'est comme ça dans Schurum Ciné Club, Jérôme, que vous introduisez ce film Imitation Game sur les traces d'Alan Turing, le père de l'informatique, un peu réhabilité par ce film, hein, inventeur d'Enigma, qui a tout de même permis aux Alliés de gagner la Seconde Guerre mondiale, et puis oublié, enfin qui a connu un terrible destin. Qu'est-ce que vous pensez de ce film qui met donc en scène ce génial informaticien ? Parce que là, on est vraiment dans l'image du génie mathématique, un brin autiste, différent des autres, quoi, en gros.
Alors, le film en lui-même, donc c'est un film assez hollywoodien, hein, malgré tout, qui est, enfin, moi je l'aime bien au final, enfin, il se laisse bien regarder.
Mmh. Oui, je suis d'accord.
Voilà. Après, par contre, quand on prend la casquette de mathématicien, enfin, de, je suis pas mathématicien, mais de passionné de mathématiques, il y a des choses qui sont très intéressantes sur la façon dont est dépeint la façon dont Alan Turing a déchiffré Enigma. Et de l'autre, il y a des ficelles scénaristiques parfois un petit peu faciles qui...
Par exemple voilà.
Typiquement, le point d'orgue du film, je vais un petit peu... un peu gâché le film, entre guillemets, mais le point d'orgue du film, c'est Alan Turing qui se rend compte qu'il y a un mot qui revient tout le temps dans les messages qu'ils sont en train de déchiffrer, qui est Heil Hitler. Et du coup, à partir du moment où ils ont compris ça, hop, tout de suite, ils ont compris comment faire pour déchiffrer Enigma. Évidemment, en pratique, c'est le point de base du déchiffrement, c'est qu'on va essayer de chercher des mots probables, et à partir de ça, on va en déduire d'autres méthodes.
Mais c'est pas aussi immédiat, c'est pas aussi rapide, voilà. Et c'est pas comme ça que se passe une vraie recherche et une vraie découverte, en l'occurrence.
Voilà, c'est exactement ça. Et donc, du coup, en fait, le film, finalement, passe un petit peu sous silence l'immense travail fourni par Alan Turing et par ses collègues, parce que dans le film, il est montré comme travaillant très, très seul, même s'il a une équipe. Voilà, il est montré comme solitaire.
Ouais, c'est le génie solitaire, un peu fou d'ailleurs. Enfin, on le présente comme ça, et très solitaire. Oui.
Voilà, c'est-à-dire que dans la réalité, dans l'histoire, Alan Turing n'était pas seul. Il avait une équipe avec lui, il avait d'autres mathématiciens qui ont commencé le travail avant lui. D'autres mathématiciens après ont poursuivi son travail. Il a été très important dans le déchiffrement d'Enigma. Mais le présenter comme l'unique et seul mathématicien qui a déchiffré Enigma, c'est une façon, en fait, de remettre ce personnage important de l'histoire des sciences en avant. Mais malgré tout, je trouve que c'est pas non plus rendre complètement hommage au travail des mathématiciens pendant la Seconde Guerre mondiale que de montrer que c'est le seul et l'unique.
C'est ça, c'est un peu simplificateur. C'est un peu aussi, comme vous disiez, par rapport à l'extrait de Will Hunting qu'on a entendu en tout début d'émission, faut-il une bonne psychothérapie pour décrocher la médaille Fields? C'est un peu à chaque fois de montrer un mathématicien comme ça tout seul, alors qu'on travaille en équipe de toute façon, et puis un peu fou, et c'est un génie hors norme, complètement. Alors je ne sais pas ce qu'on pense, pardon, je ne sais pas ce que vous en pensez, Randall Doux, parce que vous-même, vous êtes mathématicien. Vous êtes certainement génial, ça, j'ai pas de doute. Je pense pas que vous soyez fou, enfin, je ne sais pas non plus. Mais qu'en pensez-vous de cette manière aussi de montrer les mathématiciens, un peu différent pour les mathématiciennes d'ailleurs, mais comme des gens hors normes, géniaux, mais souvent autistes et qui travaillent tout seuls et qu'on ne peut pas comprendre, qui sont hors de notre communauté humaine presque.
Alors déjà, je pense que ce qui est vrai, c'est qu'on est tous obsessionnels.
Ah. D'accord.
On peut pas, à partir du moment où un problème est posé ou il se pose dans notre esprit, on peut pas arriver à le mettre de côté. On l'a toujours quelque part et qui fonctionne. En fait, on est un petit peu là-dedans. Mais ça conduit pas forcément à une forme d'autisme. En fait, ce qui est bien dans les mathématiques, c'est que justement, les résultats, quand ils sont justes, quand on arrive à prouver des choses qui sont révélées être exactes, les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc, on n'a pas besoin, en fait, d'avoir à convaincre les gens. Donc, du coup, les profils sont très différents. Il peut y avoir effectivement des gens très autistes. Il peut y avoir des gens qui aiment bien s'exprimer, qui aiment bien convaincre, qui aiment bien expliquer, qui aiment bien transmettre. Donc, on a vraiment des qualités assez différentes. Et chacun, en fait, a sa propre façon de présenter les choses et puis d'appréhender les problèmes. La difficulté, je pense, c'est pas vraiment d'avoir l'intuition géniale et d'y arriver. Mm-hmm. La difficulté, c'est de revenir sur ses certitudes. C'est-à-dire que, quand on est dans la recherche, on a la conviction qu'un résultat, en fait, doit être trouvé. Enfin, doit être possible. Il est possible d'atteindre ce résultat à partir de certaines hypothèses. Mais, évidemment, on n'a pas toute la preuve. C'est comme ça que la recherche commence. On a une intuition, on n'a pas toute la preuve. Et en fait, quand on avance dans la preuve, il y a des portes qui vont se fermer, puisque on progresse, hein, on chemine dans une forêt, donc il y a des endroits qui permettent d'aller plus loin, il y a des endroits qui bloquent. Donc, le retour sur soi, le retour vers les certitudes qu'on avait au départ, est très important. Et c'est ça, revenir, retravailler sur nos certitudes, qui n'est pas souvent montré dans les films. Souvent, justement, les personnages ont l'impression d'avoir que de l'intuition de bout en bout, et ils sont capables. Et en fait, non, on commence à avoir, il faut une certaine assurance pour choisir un chemin dans cette forêt, mais après, il faut aussi avoir suffisamment de warning pour nous dire il faut se remettre en cause, il faut remettre en cause nos certitudes et il faut aller prendre un autre chemin transverse.
Donc savoir se remettre en cause, et on comprend aussi pourquoi vous êtes, comme vous le disiez, obsessionnel, c'est-à-dire que ça met énormément de temps, donc il faut que ça travaille aussi tout seul dans votre tête quand vous dormez, quand vous marchez, quand vous allez au cinéma, enfin j'imagine, Randall Doux. Oui.
En fait, il y a une espèce de dualité, c'est-à-dire que quand on est sur une table et qu'on a de quoi écrire et qu'on peut faire autant d'équations qu'on veut et on peut consulter tous les livres qu'on veut, d'un côté on va vers des choses qu'on sait faire mais qui nous empêchent parfois de justement avoir la vraie intuition. Mm-hmm. Et la vraie intuition, elle vient en fait pas vraiment de calcul, elle vient justement dans ces moments-là où on n'a pas une feuille pour écrire des calculs, parce que ça nous disperse, où on n'a pas la possibilité justement d'avoir tout notre support, d'avoir accès à Internet, accès à des articles. Et là, on est vraiment en dehors de tout, sans rien, et on pense vraiment au problème. Et c'est là qu'effectivement, on voit les choses d'une façon différente. Et souvent, c'est là que sont les meilleures idées.
Ah ouais, l'étincelle, hein, l'étincelle. Vous voulez réagir là-dessus ?
Oui, ben en fait, ce que raconte Randall, ça me fait penser... Enfin, il y a un film qui, justement, dépeint très bien ce travail de mathématicien. C'est le biopic du mathématicien indien Ramanujan, L'homme qui défie l'infini, dans lequel, justement, le propos du film, c'est justement essayer de montrer... ces deux aspects en fait de la recherche en mathématiques, c'est-à-dire d'un côté on a le personnage de Ramanujan qui est extrêmement intuitif dans sa façon de raisonner, d'aborder les mathématiques, et en face on a Hardy qui lui est un mathématicien à l'occidental où un résultat doit être démontré de manière extrêmement rigoureuse et formelle. Et du coup, voilà, le film dépeint l'affrontement entre guillemets entre ces deux façons de voir les mathématiques. Et c'est vraiment un film qui est très très intéressant justement pour cet aspect-là du travail des mathématiciens.
Vous nous rappelez son titre ?
L'homme qui défie l'infini.
Et c'est à voir hein, sur votre chaîne YouTube, dans votre série autour de la question de la bonne image hein, des mathématiciens et des mathématiciennes. Tiens donc, au cinéma, il y a un film qui a tout de même récemment changé la donne. Les figures de l'ombre qui mettent enfin en lumière et en scène les trois mathématiciennes afro-américaines de la NASA qui ont réussi, grâce à leurs calculs, finalement la mise en orbite de John Glenn, le premier astronaute américain. Extrait à suivre après avoir écouté l'une de celles qui interprète ces héroïnes de l'ombre, la comédienne, chanteuse, artiste et compositrice Janelle Monae, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, oui, chère à votre cœur, merci Jérôme Contenceau, et que l'on écoute tout de suite sur RFI.
City crying out. I got to cool down, but I'm under pressure. Looking with my Crisco. Look at what my fist go. A renegade when I'm in a rage. I got to cool down, but I'm under pressure. I keep my hands dirty, my mind clean. Got a new agenda with a new dream. I'm kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. America, you a lie. To testify, I said the whole world about to testify, and the table's about to tip, the table's about to turn. Kitchen, then you should do the dishes. Burning down plantations, son. Ain't no parking, I don't need no validation. I light sage when I'm in a rage, I don't need permission, I got my intuition. Hands dirty, mind clean. A different vision with a new dream. We kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. I said America, use a lie. But the whole world about to testify. I said the whole world.
Table avec Janelle Monae sur RFI. Merci beaucoup pour ce choix musical. En plus, en cette journée d'intronisation du nouveau président américain, ça ne pouvait pas mieux tomber. Merci donc Jérôme Contenceau pour ce choix musical qui ne doit rien au hasard, puisque Janelle Monae est une des interprètes des Figures de l'ombre, le film hollywoodien qui met donc en lumière ces trois mathématiciennes afro-américaines de la NASA à l'origine de la première, enfin leurs calculs sont à l'origine de la première mise en orbite d'un homme, l'astronaute John Glenn, en 1962. Trop longtemps resté dans l'ombre, ces figures de l'ombre justement, c'est ce film biopic hollywoodien qui les a enfin révélés aux yeux de tous. Autour de la question pourquoi et comment les mathématiciennes aussi font leur cinéma, on écoute tout de suite un extrait.
Je suis la toute première femme noire à avoir décroché un diplôme au cycle supérieur à l'université de Virginie. Alors oui, ce sont des femmes qui font ce travail à la NASA, Monsieur Johnson. Et ce n'est pas parce que nous portons des jupes. C'est parce que nous portons des lunettes. Bonne journée.
Et oui, des lunettes pour envoyer un homme en orbite, ça vaut mieux quand on est une super calculatrice, une super mathématicienne. Dans votre essai, Jérôme Contenson, les maths font du cinéma. Et puis sur votre chaîne YouTube, LGG, vous vous êtes demandé, alors outre l'excellente idée de rendre enfin hommage à ces formidables mathématiciennes afro-américaines, figures héroïnes de l'ombre, de l'aventure spatiale en général, vous vous êtes demandé si les mathématiques injectées dans ce film, les figures de l'ombre, étaient crédibles. Crédibles ou pas, professeur Cotenceau?
Alors, c'est un peu compliqué, encore une fois. Alors, sur ce film, et en fait, sur la grande majorité des films qui traitent de mathématiques, on a toujours des mathématiciens qui sont là pour vérifier l'exactitude des équations sur les tableaux. Justement, dans les figures de l'ombre, j'avais recensé, je crois, au moins une quarantaine de scènes dans lesquelles on a des tableaux noirs avec des équations écrites dessus. En général, elles sont floues, donc c'est très compliqué de lire ce qu'il y a dessus.
Ah.
C'est compliqué, en plus, les notations, on les a pas forcément.
Ouais.
Les mathématiques sont fiables. Après, il y a beaucoup de gens...
Oui, il y a eu pas mal d'experts qui ont vérifié. Il n'y a pas de grosses erreurs, d'erreurs majeures.
Ouais. Après, on peut râler, entre guillemets, sur le fait qu'on a une scène dans laquelle... comment ça s'appelle Catherine Goebel, donc l'héroïne du film... résout un problème en se disant « Ah, on va utiliser cette méthode-là, cet outil mathématique-là. » Et en fait, l'outil qu'elle propose, normalement, encore une fois, c'est le premier outil auquel on doit penser quand on doit résoudre quelque chose comme ça.
C'est pas là qu'est vraiment son talent, son génie et sa force.
Mais à côté de ça, le film dépeint justement le courage, l'abnégation de ces femmes dans ce milieu masculin et blanc.
Non, ça vaut le coup et ça touche tout le monde. Est-ce que pour vous, alors on a bien compris, Randall Duke, vous qui êtes mathématicien mais aussi comédien et auteur, vous faites bien la différence entre les deux. Donc pour vous, le fait que ce soit crédible, c'est peut-être pas si important que ça. Par contre, rendre hommage à ces femmes, rendre hommage à tout ce travail de recherche, à tous ces héros de l'ombre qui sont derrière la conquête spatiale, entre autres, ça peut être intéressant.
Oui, d'autant que les mathématiques sont pas, ce n'est pas incarné en général. C'est-à-dire que en fait, pour tout le monde, quand on parle de mathématiques, les gens ont tout de suite une idée qui est pas intuitive, qui est due au fait qu'ils sont en confrontation avec les mathématiques depuis très jeunes. Mm-hmm. Mais pour eux, c'est des calculs, factorisation, développement et des formules. Et les formules, en fait, à part Pythagore, à part quelques noms comme ça de mathématiciens qui peuvent vous revenir, en général, ces formules, elles n'ont pas de nom. Donc voilà, c'est les identités remarquables, c'est des choses en fait qui n'ont vraiment pas de nom, donc du coup ce n'est pas très incarné.
Mm-hmm. C'est très aride et c'est pas incarné, c'est très abstrait quoi, c'est ça.
Voilà, et si jamais on parle de la formule de Pythagore ou si jamais il y a la formule de l'air ou je sais pas, on va pas parler de ces mathématiciens. Et encore moins donc les mathématiciennes, en fait c'est vrai que nous quand on était en prépa, ça manquait cruellement. Enfin, on était de rapport de. Il y a une fille pour 10 garçons. Alors moi, je faisais en fait, c'est vrai, en même temps que ma thèse de mathématiques, je suivais des cours de théâtre. Et là, le rapport était inverse. Donc,
je voyais
vraiment qu'il y avait il y avait une représentation qui n'existait pas. Quoi. Donc, je trouve dommage que justement. Les mathématiques ne fassent pas une part plus belle pour les femmes, parce qu'on a besoin que la représentation soit aussi riche que celle qu'on trouve dans la vie. Quoi.
Alors, plus de femmes en mathématiques, plus de femmes partout. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, en tant que comédien, d'incarner un mathématicien, Randall?
Oui, bien sûr.
Un petit appel du pied hein, au réalisateur qui nous écoute.
Oui, oui. Après, c'est vrai que j'aime bien, quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'aime bien me surprendre dans des personnages auxquels j'aurais pas pensé tout de suite pouvoir incarner dans la vie. C'est-à-dire que c'est vrai que, comme justement, en tant que mathématicien, on est sur quelque chose de très cérébral et notre corps, en fait, n'entre pas en jeu quand on réfléchit, quand on parle, questions, raisonnements, etc. C'est vrai que quand on va vers le jeu en tant qu'acteur, on a envie de faire ressortir tout ce qui reste, tout ce qui est en dehors, tout le langage aussi non verbal. Parce qu'en fait, les mathématiques, c'est vrai qu'on substitue à la parole un autre langage qui est le langage mathématique, mais ce langage-là, en fait, ne manipule pas d'émotions. Donc on a envie justement d'avoir, de manipuler un langage plus émotif. Alors c'est vrai, en tant que mathématicien, j'aimerais beaucoup incarner, mais un vrai mathématicien alors, voilà.
Oui, c'est ça. Et c'est étonnant parce que finalement, on y reviendra peut-être, hein, Randall Duke, mais j'ai l'impression que vous tenez les deux bouts de la chaîne, hein, quand vous êtes cérébral, mental, on n'a pas parlé de la beauté des mathématiques, mais l'abstraction, l'intellect, et puis le corps au théâtre et au cinéma, ça vous fait réagir, Jérôme Protenceau.
Pour revenir sur l'image du mathématicien ou de la mathématicienne, en fait, au cinéma, c'est quelque chose de relativement récent. En fait, le premier grand biopic hollywoodien d'un mathématicien, c'est 2001, c'est Un homme d'exception, la biographie de John Nash.
Oui.
Et en fait, à partir de ce film, justement, c'est un petit peu libéré et on a beaucoup de biopics qui sont arrivés sur nos écrans. On a parlé de Imitation Game, biographie de Alan Turing. On a parlé des Figures de l'ombre, biographie de Catherine Gobel-Johnson. On aurait aussi pu parler de Agora, qui est un biopic de la mathématicienne de l'Antiquité, Hypatie d'Alexandrie.
Oui.
On a beaucoup de films comme ça. Et en fait, avant les années 2000, les mathématiques, justement, étaient présentées. Enfin, quand on avait des mathématiques dans un film, c'était pour justement exprimer à quel point c'était compliqué. C'était un petit peu désincarné. Et justement, à partir de... J'ai l'impression que le pivot s'est fait avec Will Hunting. On est en 97. Et à partir de Will Hunting, justement, on a commencé à avoir des vrais grands films mathématiques avec des personnages principaux qui sont des mathématiciens.
Incarné donc, et ben à suivre, hein, c'est donc sur la bonne route au cinéma, mais pas seulement sur grand écran, surtout nos petits écrans, il y a aussi des séries. Hein, dans lesquelles les maths font leur cinéma. Alors, que valent ces séries sur le plan mathématique? Il y en a une en particulier que vous décortiquez, LGG, c'est The Cube, l'Escape Game de Vincenzo Natali, extrait.
C'est ça. Sa trajectoire, c'est 0, 1 et moins 1 sur l'axe X, 2, 5 et moins 7 sur l'axe Y, et 1, moins 1 et 0 sur l'axe Z.
Ça veut dire quoi, tout ça?
Vous êtes nul en maths.
Nul en maths ou pas, la série Cube, LGG, Jérôme Contenceau.
Alors c'est une série de films, peut-être pas précisé. Ah, enfin, c'est une trilogie de films.
Alors c'est moi qui me suis fait avoir. Parce qu'il y a aussi des séries, mais là c'est un film en trois. Il y a trois volets.
Voilà,
c'est ça,
on a trois volets à ce film Cube et à cette trilogie Cube. Et justement, ce que je trouve intéressant dans cette trilogie, c'est la façon dont les mathématiques sont traitées au fil des épisodes de la série. C'est-à-dire que, alors pour situer, les films Cube, les trois films ont le même pitch de départ. C'est, on a des personnages qui sont enfermés dans un cube. Sur chacune des six faces du cube, il y a des portes ou des trappes. Et ces trappes mènent sur une autre pièce en tout point identique à la première pièce. Et ils sont comme ça dans un labyrinthe géant, ils ne savent pas comment sortir. Donc les trois films, c'est le même pitch de départ. Et en fait, sur les trois films, on va avoir un point de vue différent sur les mathématiques. Sur le premier, l'idée c'est, et c'est ce qu'on a entendu dans l'extrait, le but des personnages qui sont coincés dans ce labyrinthe cubique, c'est d'essayer de comprendre la logique du cube pour réussir à en trouver la sortie.
Donc de faire des mathématiques.
Voilà, enfin, en fait,
c'est ça. Hein.
Voilà, faut qu'il fasse. Et du coup, on a dans les personnages, il y a une étudiante en maths et il y a un personnage présenté comme autiste. Encore un, il y en a beaucoup dans le cinéma. Et du coup, voilà. Et en fait, les mathématiques ici sont présentées comme un petit peu oppressantes, comme un petit peu, voilà, c'est la rigueur mathématique qui, très qui austère, coince. Voilà, qui donne cet aspect-là. Sur le deuxième film, ils sont allés encore plus loin dans le délire, puisque ils sont plus enfermés cette fois-ci dans un cube, mais dans un hypercube, c'est-à-dire un cube en quatre dimensions. Mm-hmm. Et là, tout de suite, on entre dans un aspect beaucoup plus abstrait des mathématiques. Puisque les décors du premier, c'était des décors très, très métalliques, mmh. alors que sur le deuxième, on est dans des décors extrêmement blancs, extrêmement lumineux. On est vraiment dans le côté, on va parler de quatrième dimension, on va parler de physique quantique, voilà. On ne comprend plus tout et ça évoque des choses très lumineuses. Et on est vraiment du côté abstrait des mathématiques. Mmh. Et le troisième volet du film, là, c'est encore un autre point de vue. C'est plutôt le point de vue, les mathématiques, c'est nul, ça ne m'intéresse pas. Et on a, en fait, l'histoire, c'est que le troisième volet de la trilogie Cube, donc qui s'appelle le Cube Zéro, qui est un préquel,
qui est le premier voilà, donc de la série
voilà,
enfin.
Okay, voilà, qui se passe chronologiquement avant le premier mm-hmm. épisode a été réalisé par le producteur du deuxième. Et déjà dans le deuxième film, le producteur avait essayé de gommer les choses mathématiques trop compliquées, c'est-à-dire qu'initialement il fallait vraiment que les personnages soient dans un hypercube, donc mm-hmm. si on est dans un hypercube il y a vraiment ces propriétés là qui doivent être respectées, c'était ce qu'avait écrit le scénariste initialement. Le producteur est passé par là, a dit non, c'est trop compliqué, on va essayer de simplifier.
On va rien comprendre, voilà. Ça va être juste pour des matheux et donc les autres ne vont pas aimer le film.
C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, donc sur ce troisième volet, c'est donc le producteur qui a pris la réalisation du film. Et du coup, les mathématiques sont complètement gommées. D'ailleurs, les chiffres qu'on voyait dans les premiers épisodes sont devenus des lettres.
Puisque donc il y a de moins en moins de mathématiques voilà. au fur et à mesure et de la série.
Voilà.
Hein.
Et au cours du film... Ils vont jusqu'à l'audace, à un moment que un personnage qui comprend le cube et rentre dedans, il essaye de s'en sortir en connaissant les codes. Et en fait, à ce moment-là, il est décidé que les lettres qui correspondent aux coordonnées dans le cube sont effacées. Donc une façon en fait qu'a le film de dire « Non, non, ce film-là n'est pas un film mathématique, ne cherchez même pas à trouver une logique ».
Pour pas faire peur, quoi, avec The Cube. Alors maintenant, on va non pas faire peur, justement, avec les mathématiques, on va s'amuser. C'est ce que vous faites, en tout cas, vous, Randall Duke. Vous vous amusez à jouer, à faire votre propre, comment dire, cinémathématique, à partir de films cultes. C'est une parodie, hein, vous les doublez. Ça s'appelle Maths de folie. Allez, on résistait pas à vous en passer un extrait, chers amis auditeurs. C'est très compliqué à la radio, parce que il va falloir vous imaginer la scène cinématographique culte. Doublé par Randall Duke. Oui, il ose, Randall Duke. Alors, imaginez la scène que donc a doublé Randall Duke. En l'occurrence, c'est une scène culte de Pirates des Caraïbes. Vous voyez, Pirates des Caraïbes, Johnny Depp, la belle Keira Knightley sur le bateau. La scène est, comment dire, très arrosée au rhum. On imagine la scène et on écoute le son.
Ça vous dirait de profiter de ce petit moment de pause pour résoudre un exode mathématique?
Oula, j'ai pas fait ça depuis longtemps. Il faudrait qu'on me saoule pour faire des maths.
Alors voici... Disons... Si je bois la moitié de la bouteille et à votre tour vous avalez la moitié de ce qui reste et ainsi de suite, au total, combien avez-vous bu de ce rhum exprimé en centilitres?
Ah, c'est à vomir, votre exo.
Attendez, vous cherchez à gagner du temps pour réfléchir, non?
Du tout, je voulais prendre un peu d'air frais pour oublier votre exo de beuverie et le parfum puissant que vous gardez au chaud sous votre bras.
Revenons au problème. Vous voulez une indication?
Allez-y, dites toujours.
Les séries géométriques. Si je bois la moitié, vous buvez la moitié du restant, ce qui donne le quart. Je bois alors la moitié du quart, soit le huitième. Vous buvez ensuite la moitié du huitième, un seizième. Vous buvez donc une série géométrique.
Une série géométrique, carrément, dans ce doublage très osé par Randall Duke d'une scène culte de Pirates des Caraïbes. Bon, c'est compliqué à la radio, on vous renvoie, chers amis auditeurs, sur le net. C'est quand même assez tordu, Randall Duke. Comment vous est venue cette idée-là?
Déjà, ça m'est vraiment arrivé, c'est-à-dire que, en fait, j'étais allé, enfin, en tout cas, cet exercice.
D'accord, l'exercice sur les séries géométriques.
Voilà, l'exercice sur les séries géométriques m'est réellement arrivé, c'est-à-dire j'étais allé dans un entretien pour faire un stage et on m'a posé un problème, donc j'ai essayé de le résoudre avec des calculs, hein, c'est la méthode indiquée par le personnage de Johnny Depp. Mm-hmm. Et finalement, il y avait une astuce qui est l'autre méthode indiquée dans la suite de la vidéo par le personnage de Keira Knightley. Mm-hmm. Et donc voilà, donc il y a en fait deux façons de résoudre possibles. Et sinon, alors pourquoi ça me vient? Ben, en fait, j'avais travaillé avec Ritipan sur
le cinéaste cambodgien, voilà, auteur et cinéaste. Hein. Mm-hmm.
Donc sur plusieurs films dont j'ai fait la voix off, mm-hmm. donc ça avait rien à voir avec les mathématiques, hein, mais il y avait un travail de voix et je trouvais intéressant justement de travailler sur la voix. C'est vraiment que quelque chose dont on n'a pas conscience, mm-hmm. enfin, en tout cas on s'entend jamais parler sauf si on s'enregistre, mais voilà, donc c'est quelque chose qu'on découvre et voilà, et donc ça m'a amusé en fait de prendre des personnages, une scène où effectivement il est question absolument d'autre chose et de leur faire dire à peu près tout ce qu'on veut.
Et vous y arrivez très bien parce que c'est vraiment flagrant. Il y a d'autres maths de folie, notamment la parodie d'une scène culte de No Country for Old Men des frères Cohen. Bon, on peut pas vous les passer à la radio parce que si on n'a pas l'image, ça n'a pas de sens. Mais c'est franchement extrêmement comique. On voit aussi votre esprit un peu farceur et assez créateur. On l'a compris, même les profs de maths ont de l'humour. Parfois, et surtout d'ailleurs de la suite dans les idées. Alors on va parler là encore de voix, de son, avec Great Teacher Isaba, ce professeur de mathématiques en Seine-Saint-Denis, qui est aussi rappeur, et qui en 2018 s'est mis avec un succès certain auprès de ses élèves et même d'autres internautes à rapper ses cours sur Internet. On écoute Statistique, Great Teacher Isaba, yeo sur RFI.
I2S, I2S, GTI, 1-1. Ça fait 1. Si aujourd'hui je prends le chromie, ce n'est pas pour te parler de balistique. Bon, t'as l'habitude, mais cette fois-ci je kick. C'est pour qu'on fasse un peu de statistiques, qu'on étudie les caractéristiques d'une population ou d'un ensemble de gens. Ça peut être leur note, leur salaire, leur âge, leur poids, leur taille ou même leur nombre de dents. Pour commencer, l'effectif global, c'est le nombre total qu'il y a d'éléments. Des éléments qui ont tous une valeur, si c'est plusieurs fois la même, ce n'est pas gênant. On peut résumer tout ça dans un tableau de deux lignes, donc pas de paresse. Dans la première, mets les valeurs possibles, dans la deuxième, le nombre de fois qu'elles apparaissent. Si tu divise ces nombres par l'effectif total, t'obtiens la fréquence que tu multiplies par 100. Si en pourcentage tu veux la réponse, là sur l'instru je me dépense, mais ce qui suit tu peux le faire toi-même. Tu calcules la somme des valeurs, tu divises par le nombre total, ça donne la moyenne. Mais relis-toi, ouais relis-toi, sois cohérent. Y'a des valeurs qui apparaissent plein de fois, y'a des coefficients. Range-les dans leur croissant, pour la suite m'entends-tu? Et la plus grande valeur, moins la plus petite, bah c'est l'étendue. Et pour la médiane, en gros tu dois trouver la valeur pile au centre. Faut qu'il y ait autant de valeurs plus petites, quelques de valeurs plus grandes. Allez, un petit exemple, admettons que des valeurs t'en as 10. Même après les avoir mises dans leur 300, tu te demandes si c'est la 5ème ou la 6ème. Comme 10 est un nombre pair, aucune de ces deux valeurs ne fera l'affaire. En fait la médiane est comprise entre les deux valeurs les plus au centre quand l'effectif est pair. Aucune de ces deux valeurs ne fera l'affaire. En fait, la médiane est comprise entre les deux valeurs les plus au centre quand l'effectif est pair.
Vous avez compris les statistiques enseignées par Great Teacher Isaba, conseillé, me dites-vous, et Jérôme Contenson par le rappeur Kerry James, rien que ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que vous êtes, Jérôme Contenson, à la ville, quand vous n'êtes pas LGG sur Internet et que vous ne regardez pas des films pour en extraire les mathématiques, vous êtes professeur de mathématiques.
Oui, alors moi je trouve ça assez incroyable ce qu'il a fait justement ce professeur. Parce que voilà, tout ce qui est dit dans la chanson est correct, hein, y a pas de problème. Et justement, ça donne des méthodes du coup pour apprendre qui sont très originales.
Vous arrivez à vous en servir auprès de vos élèves? Ils savent que vous êtes LGG le soir à pas d'heure?
Les quelques élèves curieux le savent, voilà. Je fais pas particulièrement de publicité.
Autour de la question, comment les mathématiques font leur cinéma, qui est aussi le titre de votre ouvrage, hein, Jérôme Cottenceau, dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner, à vie aux amateurs. Alors le comble, j'ai envie de dire, Jérôme, c'est qu'un de vos films préférés, c'est un film dans lequel être bon en maths est considéré comme une malédiction. Je veux parler de Mary, film de Mark Webb, où peut-on résoudre les équations de Navier-Stokes à 8 ans. Extrait.
Quoi ? Oui, premièrement, il manquait le signe moins devant l'exposant. Tout était faussé à partir de là. Le problème était insoluble. Peut-être que cette école n'est pas aussi géniale que tu le crois.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans Marie, Jérôme Cottenceau ?
Alors, c'est pas pour les maths en fait qu'il y a dedans, mais le film en lui-même, je le trouve vraiment très touchant, très mignon. Voilà, j'aime bien ça. C'est mon côté midinette.
D'accord.
Non, après, c'est vrai que dans ce film, justement, je trouve qu'il y a, il y a une scène intéressante, justement, avec l'extrait qu'on vient d'entendre, puisque c'est typiquement le genre de film dans lequel, quand on comprend les mathématiques qu'il y a à l'écran, ça donne des petits indices sur ce qui se passe, même si la scène en elle-même n'est pas très compliquée. Mm-hmm. Mais on a Marie qui est soumise à un problème qui a l'air difficile à résoudre. Et donc, on lui soumet ce problème pour qu'elle démontre ses capacités. Et donc, elle arrive devant le problème et elle reste bouche bée. Elle n'arrive pas à le résoudre. Mm-hmm. Donc, en tant que spectateur, un spectateur lambda va se dire « Oh oui, le problème doit être vraiment très, très compliqué. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas ?» Mais quand on maîtrise un petit peu les mathématiques, quand on connaît ça, donc le problème, c'est que c'est niveau licence à peu près, donc post-bac. En fait, on voit tout de suite que le problème qui est posé est faux, mais ça a été volontairement fait.
D'accord.
Et en fait, on voit qu'il y a justement cette erreur, et en fait, on comprend que Marie ne résout pas le problème parce que justement, il y a une erreur dans l'énoncé.
Ah oui, donc vous avez les sous-titres, et finalement, vous avez beaucoup plus de profondeur dans le film si vous comprenez ce dont on parle, voilà. C'est-à-dire les mathématiques.
C'est exactement ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que je trouve que le travail sur les mathématiques dans le film n'est pas qu'un travail de surface, et ça a été vraiment pensé pour que ça donne du sens en plus. Alors après, très vite, on comprend dans la scène d'après où elle rectifie le problème. Mais voilà, quand on a un œil mathématicien, on a vu
le voir tout de suite. C'est une manière, donc, on l'a bien compris, de faire passer les mathématiques. C'est une manière aussi de nous ouvrir au cinéma, aux séries. Comment vous avez-vous, parce que c'est quand même la question aussi qui nous intéresse, Randall Doux, comment vous avez-vous décidé de vivre entre ces deux casquettes ? Donc vous êtes un chercheur, un mathématicien, professeur à l'École Polytechnique, notamment. Vous êtes acteur, comédien, auteur de théâtre. On comprend bien que vous tenez ces deux bouts. Vous avez parlé du corps, hein, de l'incarnation et puis de l'abstraction. C'est un choix d'avoir décidé de mener les deux de pair.
Non, c'était pas un choix. C'était en fait, je me suis pas posé la question parce que tout est fait quand même dans notre société. Tout est fait pour une sélection par les mathématiques. Donc, moi, j'avais effectivement du plaisir dans les mathématiques, mais aussi un plaisir littéraire. Je me sentais pas particulièrement scientifique plus que littéraire, mais c'est vrai que d'année en année, on choisit des filières de plus en plus scientifiques. Mm-hmm. Et c'est vrai que je me suis retrouvé en fait en école d'ingénieur. Vraiment à embrasser une carrière plutôt scientifique. Il se trouve que j'ai passé la porte d'un atelier de théâtre, et c'est là que je suis revenu vers mes anciennes amours. Donc j'ai eu en fait la possibilité non seulement de revenir un peu vers un côté plus littéraire, mais aussi d'incarner les personnages. Donc ça, c'est assez nouveau aussi. C'est pas quelque chose que, par exemple, je vivais quand j'étais ado et que j'aimais beaucoup lire. J'aimais beaucoup voir des films.
Mais là, c'est vraiment de l'incarnation, ouais, au cinéma, au théâtre, de vivre dans votre corps.
Voilà, on vit tout d'un coup des choses qui peuvent ressembler à ce que vivent les personnages. Donc ça, c'est vraiment une révélation. C'est la révélation d'incarner une autre vie.
Et de continuer à vivre la vôtre, hein, aussi de mathématicien. Autour de la question comment les maths font leur cinéma, Allez, je résiste pas à partager avec vous deux, Randall et Jérôme, l'étrange court-métrage réalisé par un mathématicien franchement génial, passionné, iconoclaste, insensé, j'ai envie de dire, le russo-américain Edward Frankel, auteur du best-seller Amour et maths, traduit dans le monde entier, mais aussi auteur donc de cet étrange court-métrage complètement hors norme, Rite d'amour et de mathématiques, extrait avec explication d'Edward Frankel. C'est ici même dans ce studio, sur RFI, en juin 2015.
Quand un mathématicien trouve la formule de l'amour, il la grave sur la chair de sa bien-aimée. Entre extase et souffrance, ce tatouage illustre toute la passion destructrice de son amour. Le film Rite d'amour et de maths est une allégorie sur la vérité, l'amour, la mort et la beauté. Esthétiquement parfait, le film intrigue et inquiète.
Sur la musique de Tristan et Iseult, de Wagner, oui. Votre court-métrage, Rite d'amour et de maths, a tout de même de quoi intriguer Edward Frankel et en a surpris plus d'un. Qu'est-ce qui vous a pris de tatouer la formule de l'amour sur le ventre de votre compagne?
Oui, c'était la première fois que je tentais d'expliquer que les maths n'est pas exactement les choses que tout le monde pense. Il y a la beauté dans les maths. Et je pensais que comment l'expliquer. Et peut-être les formules, normalement, les mathématiciennes vont à tableau et écrivent les formules. Mais c'est un peu abstrait. Oui, et je pensais que comment expliquer les passions. Parce qu'il y a beaucoup de passions quand vous essayez de trouver quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment la vérité du monde, la vérité de l'univers qu'on essaie de découvrir. On approche l'infini. Mais les maths nous donnent une façon d'approcher l'infini. Et c'est pourquoi c'est très intéressant. Je pensais que ce serait bien de montrer ça dans les façons artistiques. Mais aussi, quand on tatoue les formules sur le ventre, les formules deviennent aussi une partie du corps.
Partie du corps. Et la formule de l'amour, ça existe, Edward Frankel?
Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il n'existe pas. Et je suis très heureux que la formule de l'amour n'existe pas. Parce qu'autrement, je pense que la vie est vraiment beaucoup plus intéressante, beaucoup plus précieuse, beaucoup plus mystérieuse.
Ça peut pas être mis en formule.
Toutes les formules. Mais les formules nous donnent les portes pour découvrir, pour trouver la vérité peut-être.
Si jolie formule d'Edward Frankel. Bon, il n'y a pas de formule de l'amour, mais il y a de l'imagination ouverte par les mathématiques. Dernier mot pour conclure autour de ces mathématiques qui font aussi du cinéma, Jérôme Contenson.
Je réagis juste à la formule de l'amour, puisque il y a aussi un film, justement, Le Monde de Nathan. L'histoire d'un jeune autiste qui participe aux Olympiades de mathématiques, qui tombe amoureux d'une jeune chinoise. Et pareil, il se renseigne aussi sur l'équation de l'amour et il ne réussit pas vraiment à trouver.
Et oui, malheureusement, Randall Duke, la formule, l'équation de l'amour, vous l'avez, vous?
Non, mais par contre, il y a vraiment de la beauté dans les mathématiques. Donc l'amour, c'est pas la beauté, hein, mais voilà, il y a des preuves qui sont d'une incroyable beauté. Et c'est vrai que on le retrouve difficilement ailleurs. Enfin, c'est une beauté particulière, une beauté des preuves mathématiques. C'est une chose particulière qu'on retrouve pas dans d'autres.
Merci de nous avoir fait partager, approcher vaguement cette formidable beauté mathématique. Merci en tout cas d'avoir fait passer les maths avec amour et humour sur tous nos écrans. Nous donnons envie peut-être d'en faire des maths et en tout cas d'en voir au cinéma. Ça, c'est déjà pas mal. Jérôme Contenson, je rappelle le titre de votre ouvrage, Les maths font leur cinéma, aux éditions Dunod. Je rappelle que nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs, avis aux amateurs. Je renvoie aussi sur votre chaîne YouTube LGG et sur le Showroom Ciné Club. Et puis, cher Randall Duke, merci d'avoir été en ligne en direct avec nous, d'avoir pris sur votre temps de mathématicien, mais aussi de comédien et d'auteur. Et on peut renvoyer juste pour le plaisir sur vos scénettes maths de folie et puis sur vos travaux de recherche quand même. Merci Randall.
Merci beaucoup.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast. On vous donne rendez-vous lundi dans l'espace avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et à toute la beauté du monde à l'écoute de RFI. C'est bientôt l'heure du prochain journal.